Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
La baisse de la fécondité et la révolution industrielle au début du 19e siècle, puis la hausse de la mortalité et la nécessité de reconstruire le pays après les deux guerres mondiales ont rendu nécessaire le recours régulier à l'immigration en France. Et cette cohabitation ne s'est pas faite sans heurts, notamment en période de crise économique, comme le rappelle Fernand Braudel dans son livre « L'identité de la France ». Depuis 1974, notre pays est de nouveau en proie à la récession économique, rendant plus épineux le problème de l'immigration, d'autant que celle-ci a considérablement évolué, tant dans sa nature que dans les enjeux qu'elle induit. Pour nous aider à appréhender les nuances de ce phénomène dans lequel l'égalité côtoie l'illégalité, je suis ravie d'accueillir Catherine Vitold-Vanden. Bonjour.
Bonsoir.
Politologue, directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Centre d'études et de recherches internationales. Vous êtes également l'auteur du livre « Faut-il ouvrir les frontières ?» publié aux éditions Presse de Sciences Po. À vos côtés se trouve Jacques Dupaquier, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes académicien et fin connaisseur des mutations de la population française et vous avez notamment piloté et créé le laboratoire de démographie de l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Alors, de me recevoir.
Si vous me le permettez, revenons pour un court instant à une période antérieure à la nôtre afin d'offrir à nos auditeurs une compréhension générale de l'évolution de l'immigration en France. La période qui me semble marquer un premier tournant dans l'histoire de l'immigration dans notre pays se situe au cours des années 50, période où l'on assiste à l'arrivée continue de travailleurs immigrés jusque dans les années 70, avec cependant une différence notable, la provenance de ces migrants qui ne viennent plus seulement des pays européens.
Effectivement,
Catherine Vitold-Vanden.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'immigration algérienne, qui est une immigration coloniale initialement, est une immigration ancienne. On commence à avoir les premières formes de présence de l'immigration kabyle dès la fin du 19e siècle et certains d'entre eux qui étaient donc venus pendant la Première Guerre mondiale pour suppléer la main-d'œuvre française qui était au front sont restés ici entre les deux guerres et c'était le ministère de l'Intérieur qui avait en charge donc le contrôle et aussi la gestion de cette population jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Alors ce mouvement s'accélère en tout cas dans la période de décolonisation à laquelle la France est confrontée. Quelles sont les répercussions sur l'origine de ces nouveaux migrants? Est-ce qu'il y a plus de personnes originaires des pays du Maghreb et d'Afrique noire, par exemple?
Disons que le dernier recensement où il y a une majorité d'Européens en France, c'est en 1975. C'est une période qui est caractérisée à la fois par beaucoup de brassage, parce que ça a été la période de résorption des bidonvilles. Il y avait beaucoup de migrants européens, notamment des Portugais, qui habitaient dans des bidonvilles jusqu'à la fin des années 60. C'est le plan Chaban-Delmas de 69 qui décide de résorber les bidonvilles et donc des personnes qui habitaient là sont relogées dans ce qu'on va appeler les grands ensembles. Et ensuite, 1974, suspension de la migration salariée de main-d'œuvre, ce qu'on appelle l'arrêt de l'immigration. Et ça a pour effet d'accélérer un mouvement d'immigration familiale qui existait déjà avant 1974, pour les immigrations déjà installées, comme l'immigration algérienne, l'immigration portugaise, espagnole, cette immigration familiale avait déjà commencé à s'installer durablement bien avant ce qu'on appelle l'arrêt de l'immigration. Mais le mouvement va se poursuivre et parfois s'accélérer dans les années qui vont suivre.
Alors, à quel secteur de l'économie cette immigration est-elle affectée?
Alors l'industrie, les mines, également tout ce qui est la construction mécanique, également tout ce qui est la sidérurgie, la Lorraine par exemple, et également le bâtiment. C'est une période de reconstruction et donc beaucoup d'étrangers travaillent aussi dans le bâtiment. Le monde agricole aussi, il y a des régions qui ont beaucoup d'ouvriers agricoles, par exemple la Picardie, et ces étrangers, on les voit un petit peu partout dans les secteurs où on manque de main-d'œuvre. C'est surtout une immigration masculine, peu qualifiée. C'est l'immigration de masse, des gens qui offrent leurs bras pour l'essentiel.
Alors, comme vous le soulignez tout à l'heure, 74 va marquer une première rupture, puisque la France connaît les prémices en fait d'une crise économique liée au choc pétrolier de 73 et aggravée sensiblement par le choc pétrolier de 79. Quelles sont les conséquences d'une part sur l'économie française et comment surtout la France va-t-elle adapter sa politique en matière d'immigration?
Disons qu'il y a tout un débat de spécialistes qui est sur le point de savoir si la décision de 74 était plutôt une décision dictée par des choix économiques ou par des choix politiques. Il ne faut pas oublier qu'en arrière-fond, il y a une vague de xénophobie en France avec des affrontements entre étrangers et français dans cette période à partir de 73. L'idée de mieux maîtriser l'immigration est une idée qui existait déjà dès le milieu des années 60. En 1966, on crée la direction de la population et des migrations, par exemple. Et en même temps, la gestion des flux était très aléatoire, puisqu'en 68, l'Office national de l'immigration, qui avait le monopole du recrutement de la main-d'œuvre, ne contrôlait plus que 18% des flux. Ce qui veut dire que 82% des entrées pendant la période de Gaulle, Pompidou, entraient illégalement. Chose qu'on a totalement oubliée. Et beaucoup se faisaient régulariser au cas par cas. Ensuite, et à l'époque, on régularise assez facilement. Et il y a une circulaire de 72 qui est la circulaire Marcelin Fontanet qui met le coup d'arrêt à ce système de régularisation systématique des clandestins. Et ensuite, on va commencer à vouloir véritablement mieux maîtriser l'immigration avec cette décision de suspension de l'immigration de main-d'œuvre salariée. Donc en 74.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contexte de crise économique a profondément modifié le regard que portent les Français sur cette population immigrée. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, dans la mesure où le paysage migratoire va complètement se modifier dans les années qui vont suivre 74. C'est-à-dire qu'on voit véritablement l'installation des familles et à la fin des années 70, on voit apparaître le phénomène appelé phénomène de seconde génération. C'est-à-dire les banlieues, les populations qui s'installent et les secondes générations, donc les jeunes issus de l'immigration qui commencent à manifester pour ce qu'ils appellent la dignité, les discriminations policières, par exemple, et la question de la double peine. Et ça, c'est l'émergence de ce qu'on appellera ensuite le mouvement Beur, donc qui est né dans la banlieue lyonnaise pour l'essentiel dans les années 78, 79, 80. Et on va avoir une autre vision de la chose à partir de la liberté d'association de 81 qui va donner une impulsion considérable à cette visibilité du phénomène seconde, parfois troisième génération. Et ensuite, on va avoir peu à peu deux problématiques assez différentes qui sont d'une part celle de l'immigration installée, essentiellement en famille, très fortement frappée par la désindustrialisation et par le chômage. Et de l'autre côté, la question des flux qui est ceux qui continuent à arriver dans la clandestinité mais qui viennent souvent d'autres régions du monde que les grandes nationalité déjà présente sur le territoire français dans les années 70.
Alors, ce que vous ne soulignez pas, c'est également une attitude de rejet, en tout cas d'une partie de ces immigrés par la population française, puisqu'une étude réalisée en 93 par l'OCDE a montré que les personnes issues de l'immigration en France, comme en Europe d'ailleurs, étaient plus touchées par le chômage du fait d'un mouvement spontané de préférence nationale. Et il semble que ce constat reste d'actualité en 2004, puisque selon un rapport remis mardi dernier par la Cour des comptes, eh bien, cette Cour des comptes stipulait également qu'elle se fait du souci quant à l'avenir de cette génération issue de l'immigration.
Oui, il y a deux choses. Il y a d'une part un dispositif institutionnel européen qui a été d'ailleurs largement inspiré du modèle français de ce qu'on appelle l'opposabilité de l'emploi. C'est-à-dire que dans le système de 74, veut essayer de promouvoir le marché du travail national avec l'idée qui s'avérera fausse par la suite, mais à l'époque on ne le savait pas, le scénario c'était que la main-d'œuvre française frappée par le chômage viendrait occuper les postes que les immigrés allaient laisser, et on avait un autre scénario qui s'est révélé erroné, qu'ils allaient retourner chez eux. Donc cette idée de substitution de la main-d'œuvre nationale à la main-d'œuvre étrangère, qui était essentiellement le programme du secrétaire d'État Stoléru à l'époque, en 1977, va échouer, et on a mis sur pied ce système d'opposabilité de l'emploi. C'est-à-dire que pour qu'un employeur fasse appel à un étranger, il faut qu'il fasse la preuve qu'il ne trouve aucun national français sur ce même marché du travail, dans le même bassin d'emploi, pour la qualification souhaitée. Et le système européen est calqué là-dessus, puisqu'en 97, on décide de mettre en œuvre ce qu'on appelle la préférence européenne à l'emploi, et même système, pour qu'on emploie un nouvel entrant étranger comme salarié, il faut que l'employeur montre qu'il a fait un appel main-d'œuvre, qu'il n'a pas eu de candidat français ni européen, et que dans la région où il se trouve, dans la qualification qu'il recherche, il ne peut trouver qu'un non-européen, qualifié ou non qualifié. Donc ça, c'est une règle statutaire, si j'ose dire. Ça, c'est un système de protection de l'emploi. Alors ça, c'est une chose qui touche plutôt les nouveaux entrants. Et la deuxième chose, c'est la discrimination, disons, à l'embauche, qui touche des gens qui, de plus en plus, sont des nationaux. Visibles, certes, mais des nationaux qui ont acquis, soit par la naissance, soit par leur durée de séjour en France, la nationalité française, qui sont ce qu'on peut appeler les jeunes issus de l'immigration. Donc ce sont deux questions différentes.
En effet. Mais en tout cas, quand un travailleur immigré travaille en France, il obtient deux sortes de statuts, soit une carte de séjour, soit un titre de résident pour une durée de 10 ans, je crois. A-t-il cependant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les nationaux ?
Ça dépend du titre de séjour que l'on a. On peut avoir soit un titre d'un an, soit un titre de 10 ans. Et la carte de 10 ans donne, dans le dispositif européen, à peu près les mêmes droits, sauf les droits politiques, que ceux des nationaux des différents pays européens. Donc il y a une sorte d'égalisation du traitement social, surtout des étrangers résidents de longue durée, non communautaires, par rapport à ce que sont les droits des nationaux. Donc ça, c'est une première chose, sauf qu'ils ne sont pas citoyens, puisqu'ils ne sont pas habilités à exprimer leur forme d'expression politique. Pour ce qui est de ceux qui ont en revanche des titres de séjour de courte durée, là effectivement ils ont beaucoup moins de droits, et notamment ils n'ont pas tous les droits de liberté de circulation, d'installation et de travail dont bénéficient les résidents de longue durée.
En tout cas, donc en 1975, le nombre d'immigrés s'élevait à 3 900 000 personnes, selon un recensement effectué par l'Institut national des statistiques et des études économiques, ce qui signifie qu'il a tout simplement doublé en fait en 30 ans, pour représenter 6,5% de la population. La crise économique dans laquelle se trouve la France n'a manifestement pas stoppé l'arrivée de nouveaux migrants. Pour quelles raisons ?
Parce que la pression migratoire continue. Pourquoi la pression migratoire continue ? Parce que il y a un certain nombre de pays sur la rive sud de la Méditerranée qui ont une population très jeune. 50% de la population environ sur la rive sud de la Méditerranée a moins de 25 ans. Donc c'est une masse très importante, souvent scolarisée, parfois très qualifiée, urbaine et disponible, parce que cette population est sortie de familles assez nombreuses, mais en même temps elle-même elle a peu d'enfants. Donc on a toute une population qui est disponible pour partir. Et deuxième raison, parce qu'il n'y a quasiment aucun espoir dans un certain nombre de pays chez soi de trouver à s'employer. Et ça, c'est une situation qui a changé par rapport à il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, l'effet des indépendances avait absorbé toute une partie de la population disponible, et notamment de la population qualifiée. Aujourd'hui, la plupart des régimes politiques sont relativement plombés, et les possibilités d'exercer ces talents sont très minces. Troisième raison, L'information. Aujourd'hui, les candidats à la migration sont beaucoup mieux informés des différences de niveau de vie à qualification égale que dans le passé. Donc, ils voient beaucoup la télévision. La télévision, ça fait partie de la vie quotidienne. Ils savent qu'à 100 km, 200, 300 km de chez eux, on vit beaucoup mieux. Donc, il y a une sorte de rêve, d'envie d'Europe qui se construit et qui est relayée, quatrième raison, par une économie de la migration clandestine. Aujourd'hui, il y a, comme les frontières sont fermées, il y a une économie du passage et de la frontière qui s'est créée. Et plus les fermetures sont fortes, plus il y a une sophistication et plus les prix sont élevés pour permettre ce passage. Donc l'offre, elle est chez eux. Ils reçoivent la télévision, ils ont des pseudo-agences de voyage qui leur offrent de partir. Et puis, il n'y a aucun espoir chez soi. Donc quelle est l'alternative ? Bah, la migration.
Très bien, nous y reviendrons tout à l'heure, on marque une courte pause.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission éclairage consacrée à l'immigration en France, à l'instant donc Catherine Vitold-Venden nous parlait du peu d'espoir de toute une génération de s'épanouir dans son pays. En mars 99, les chiffres du dernier recensement de la population française effectué par l'INSEE témoignent encore d'une augmentation du nombre d'immigrés, estimé cette fois-ci à 4 300 000 personnes, soit 7,4% de la population française. Quant au Haut Conseil à l'intégration, qui lui aussi produit des statistiques sur l'immigration, il révèle une baisse continue du nombre d'étrangers en France entre 90 et 99. Alors ces données sont contradictoires. Est-ce qu'elles rendent compte, selon vous, de la réalité de l'immigration en France ? Monsieur Dupaquier.
Ben bien sûr que non. L'INSEE a une manière de mesurer l'immigration qui n'est pas soutenable du point de vue scientifique. Il regarde au recensement de 90 combien il y a d'étrangers et il mesure ça au recensement de 99. Or, les erreurs que commet l'INSEE sur le recensement sont largement supérieures au flux réel, n'est-ce pas ? Et il est bien évident qu'il y a un sous-enregistrement et que le sous-enregistrement est beaucoup plus élevé chez les étrangers qu'il ne l'est chez les Français. Même en ce qui concerne les Français par acquisition, on sait maintenant, par des études qui ont été publiées, que on arrive à connaître à peu près le nombre des Français par acquisition qui sont nés à l'étranger, mais en ce qui concerne les Français par acquisition nés en France, au-delà d'un certain âge, il y a un sous-enregistrement de 80% du nombre réel. Michel Tribala a confronté les statistiques des naturalisations avec les statistiques des gens qui se disent français de naissance, français par acquisition. Non, ça tient pas debout. Les statistiques de l'INSEE, même les dernières, sont totalement incompatibles avec les statistiques de l'Éducation nationale. Par exemple, on trouve dans les écoles beaucoup plus d'enfants d'étrangers qu'on en avait trouvé au recensement. Elles sont en contradiction complète avec celles du ministère de l'Intérieur. Je sais bien que c'est pas tout de même la même chose, parce que au moment du recensement, on interroge les gens de tout âge, tandis que le ministère de l'Intérieur délivre des autorisations de séjour et il publie une statistique, quel est le nombre total de gens qui ont des autorisations de séjour, combien en a-t-on donné. Mais avoir une autorisation de séjour et immigrer, c'est pas du tout la même chose. Et le ministère de l'Intérieur, sa statistique ne porte que sur les plus de 18 ans. Or, il trouve d'étrangers ayant une autorisation de séjour de plus de 18 ans que l'INSEE en avait trouvé en ce qui concerne tous les âges. Puis enfin, la notion d'étranger n'a pas beaucoup de sens, parce que les naturalisations faussent tout. Si on veut mesurer les flux d'immigration en France, il faut savoir avoir les lieux de naissance. Alors ça s'est amélioré beaucoup depuis quelques années. On commence à avoir d'éleveurs. Et au dernier recensement, quand même, on a publié une statistique intéressante. Quel est le nombre de personnes qui vivent dans un foyer dont la personne de référence, c'est-à-dire le chef de ménage, est immigrée? C'est absolument considérable. En ce qui concerne l'Île-de-France, c'est à peu près un cinquième de la population de l'Île-de-France qui vit dans un foyer immigré. Mais pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'immigration a radicalement changé de visage. Je suis d'accord, en gros, avec ce que vous avez dit, Madame de Vanden. Mais à l'époque, jusque dans les années 70, c'était une immigration de travail. Et elle n'était contrôlée que dans une faible mesure. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est pas le marché du travail qui peut expliquer l'immigration, mais comme vous l'avez dit à la fin, c'est la désespérance. L'Afrique est en train de faire naufrage complètement au point de vue économique. C'est maintenant 1,4% de la production mondiale, au point de vue social, au point de vue politique. Et il est bien évident que si nous vivions en Afrique, nous n'aurions qu'une idée en tête, c'est de nous en aller. D'autant plus que les Africains, grâce à la télévision maintenant, savent à peu près, non seulement le savent, mais surestiment les conditions de vie dans l'Europe. Donc le rêve d'Europe est devenu maintenant la réalité. L'immigration à laquelle nous avons affaire n'est plus une immigration de travail, c'est une immigration du désespoir. Enfin, immigration de travail, disons 25 à 30%. Parce qu'il continue à y avoir une immigration Est-Ouest et une immigration spécifiquement européenne. Mais les gens qui arrivent d'Afrique et de Turquie et de la plupart des pays du tiers-monde, ce sont des naufragés économiques et sociaux.
Alors, comme vous le disiez, Monsieur Dupaquier, le changement quand même notable, c'est que ces migrants s'installeront durablement en France et ne rentreront donc plus chez eux. C'est effectivement ce qui a changé. Est-ce que ça ne relance pas justement le débat sur l'intégration en France ?
Bien sûr.
Oui et non, je ne suis pas sûre que tous ces migrants resteront. D'une part, on a une partie des migrants, on n'en a pas beaucoup parlé, sauf quand vous avez évoqué l'immigration du désespoir, qui est la demande d'asile. Un des facteurs qui explique aussi cette, différence de visage de la migration, c'est le fait que les frontières étant fermées pour les travailleurs, certains essayent la voie de l'asile. Mais aussi, ils sont souvent fondés à demander l'asile parce qu'ils viennent de pays qui sont à la fois pauvres et fort peu démocratiques pour être dans la litote.
Bien sûr.
Ce qui fait que on a une immigration de demande d'asile et ces gens, une fois qu'ils sont déboutés, puisqu'aujourd'hui il y a 80% de déboutés du droit d'asile dans les différents pays européens, alors qu'il y a 20 ans, il y avait 80% de gens qui obtenaient l'asile, ce système fabrique des clandestins. Et une partie d'entre eux va repartir, mais un certain nombre d'entre eux ne repartiront pas parce que d'une part, on ne le souhaite pas, c'est-à-dire que dans les régions de guerre civile très graves, on les garde ici pour les protéger au nom des droits de l'homme. Quand ils ont fondé une famille, parce que souvent ils ont attendu très longtemps avant d'avoir une réponse, ils restent également quand ils sont parents d'enfants français, par exemple. Et ça, c'est un nouveau phénomène. Un autre aspect, c'est qu'on a de plus en plus aussi, en même temps qu'on a des formes de sédentarisation aléatoire de gens comme ça qui sont une migration effectivement du désespoir, on a aussi une migration d'aller et retour. Et c'est un phénomène qu'on voit aussi bien au sud qu'à l'est. La migration pendulaire de gens qui viennent pour travailler une courte durée, accumuler une épargne et repartir chez eux, c'est un phénomène qui s'est considérablement développé. Aujourd'hui, on a des formes de mobilité migratoire qui sont beaucoup plus importantes que dans les années 80. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement le cas des gens de l'Est, qui eux d'ailleurs peuvent circuler. D'ailleurs, plus on circule, moins on s'installe, c'est bien connu. Mais en même temps, c'est le cas de ceux du Sud qui ont des titres de séjour qui le leur permettent, la migration commerçante qui fleurit dans les pays européens, et puis de la migration asiatique. On a énormément de gens qui s'installent dans la mobilité comme mode de vie. Et ça, c'est assez nouveau.
En tout cas, Monsieur Dupaquier.
Oui, je voulais vous faire remarquer quand même une chose, c'est qu'en France, on ne mesure pas les sorties. On ne mesure pas très bien les flux d'entrée, encore qu'on ait fait de grands progrès grâce à la direction de la population et des migrations, mais on ne mesure pas les flux de sortie. Ce qu'on mesure seulement, c'est les reconduites à la frontière, et tout ça représente une partie infime, évidemment, des mouvements. Moi, j'ai tout de même la conviction qu'il n'y a pas de commune mesure entre le volume des flux d'entrée et le volume des flux de sortie. La population française augmente plus vite qu'on devrait l'avoir si l'immigration était nulle, hein. Et à mon avis, ça va continuer. Comment voulez-vous que des... vous avez la Côte d'Ivoire, comment voulez-vous que des Ivoiriens qui sont venus se réfugier en France retournent en Côte d'Ivoire? Pour eux, c'est épouvantable. Ils se représentent, ils se font de l'Europe, de toute évidence. Ils surestiment complètement. C'est vraiment le mirage européen. Le seul espoir qu'ont la plupart des gens d'Afrique noire ou de Turquie, quand ils sont arrivés, c'est de réussir à s'installer. Quant à la clandestinité, je vous rappelle qu'est-ce qui alimente l'immigration clandestine? Vous avez raison, c'est les déboutés du droit d'asile. On déboute beaucoup.
Mais on y reviendra d'ailleurs sur cette question.
On déboute beaucoup, puis l'autre, c'est les visas touristiques. On ne peut pas parler de forteresse Europe.
Alors justement...
L'Europe a quand même donne 10 millions de visas d'entrée annuels et la France en donne 2 millions. Sur ce nombre, une petite partie, petite en pourcentage mais forte en chiffres, si vous voulez, eh bien, ne revient pas. Nous n'avons pas, les visas sont faits de telle manière qu'on ne peut pas contrôler ceux qui sont entrés, qui auraient dû ressortir, qui ne sont pas ressortis. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, les Américains connaissent à peu près l'entrée et la sortie, beaucoup mieux que nous. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez un visa à deux volets. Et alors, vous avez un volet que vous remettez à l'entrée, l'autre est agrafé dans votre passeport. Quand vous ressortez, on le prend et par l'informatique... En comparaison les deux, les Américains mesurent, je ne dis pas qu'ils contrôlent, mais ils mesurent à peu près le flux annuel qui est finalement bien inférieur au flux qui est en Europe.
Bien, en tout cas, l'OMI indiquait dans les chiffres de 2003 une augmentation de l'octroi de cartes de séjour avec la mention vie privée. Mm-hmm. Quel rôle joue le regroupement familial dans la progression de l'immigration aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est très important puisque l'immigration de travail est pour l'essentiel fermée ou tout au moins à peine entrouverte. Donc, si on ajoute la migration de regroupement des familles au sens propre du terme, plus la migration matrimoniale, plus la migration vie privée et familiale, qui concerne plutôt souvent des parents qui veulent se faire soigner, qui veulent voir leur famille, etc. C'est à peu près 50% des flux d'entrée en France, et c'est un chiffre qui concerne beaucoup d'autres vieux pays d'immigration européens. Donc ça, c'est un phénomène effectivement très important. Mais la plupart de ces gens viennent, là où il y a déjà une installation importante de la famille. Vous parliez tout à l'heure de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est seulement 400 000 Africains subsahariens en Europe, alors que l'Asie est beaucoup plus présente, en fait, en termes
400
de...
400 000 en Europe ?
Oui, en flux, oui. Et donc, on a une présence asiatique beaucoup plus importante en termes de flux migratoires. On a 50 millions de Chinois qui vivent à l'étranger. On a 20 millions d'Indiens. On a un Philippin sur 7 vit à l'étranger, etc. La présence de l'Asie en termes de migration est beaucoup plus forte que celle de l'Afrique.
Mmh. Elle connaît d'ailleurs une progression de 35% entre 90 et 99.
C'est de 10%. La Turquie n'étant pas comptée là-dedans. La migration asiatique, c'est de l'ordre de 10%. La migration africaine, c'est de l'ordre de 40%. Non. Aujourd'hui, la migration africaine, vous voyez, je regrette bien de ne pas avoir mes chiffres. Parce
alors,
que
les chiffres de l'INSEE, entre 99 et 90, en effet, l'Afrique subsaharienne, plus de 43%, l'Asie du Sud-Est, plus de 35%, pardon, et la Turquie, plus de 16%.
Ça dépend de la définition que l'on a de l'Asie.
Mais enfin, ceci dit, d'accord. Ce sont des chiffres. Je ne vais pas dans le sens forcément de l'un ou de l'autre. J'interviens pour souligner ces chiffres. On va marquer encore une courte pause.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission donc éclairage avec Catherine Vitol de Vanden et Monsieur Dupaquier. Donc nous étions en train de parler de l'importance du regroupement familial. Et la question que je me posais, c'était de savoir si aujourd'hui, je sais que le regroupement permet notamment, c'est l'ordonnance en fait la loi pardon du 26 novembre 2003 permet, je crois, aux familles rejoignantes d'obtenir une carte de résident au bout de 5 ans de présence en France. Et cette carte donne notamment le droit de travailler et je crois d'être formée. La France est-elle en mesure justement d'assurer du travail à cette immigration récente?
Si cette Catherine immigration Vitol vient, c'est souvent qu'elle a un espoir de trouver du travail. Et la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est qu'à la fois, il y a une affirmation pendant un temps, on parlait d'immigration zéro, il y a 10 ans, mais maintenant, on dit, on parle plus de maîtrise des flux, éventuellement une immigration sélective. Donc déjà, le discours a changé à l'échelon national et européen. Et parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Le vrai problème, c'est qu'on est dans une situation où des secteurs entiers sont alimentés par de l'immigration clandestine. Quand on régularise en France et dans les pays européens, par exemple, et l'Italie l'année dernière, qui n'est pas un pays spécialement, ouvert à l'immigration, a quand même régularisé. Il a eu 704 000 demandes, très exactement, avec 650 000 régularisations. L'Espagne actuelle aussi est en train de régulariser 1 million de sans-papiers. Au Portugal, il y a eu aussi plusieurs régularisations, en Grèce également, qui pourtant n'est pas particulièrement ouverte aux étrangers. C'est parce que ces étrangers, ils travaillent et on en a besoin. Pourquoi l'Italie, par exemple, de Berlusconi a régularisé? Parce que ces gens-là, ils travaillent essentiellement pour s'occuper des personnes âgées. L'Italie est un des plus vieux pays, enfin un pays où on vit le plus vieux en Europe, et donc il y a un besoin de la badante. Et la badante, c'est la personne qui s'occupe des grands-parents âgés qui garde les enfants, etc. Parce qu'il n'y a pas de structure, heureusement d'ailleurs, parfois hospitalière ou sociale, pour prendre en charge cette importante population qui a besoin d'une présence plus forte. Donc déjà, dans ces secteurs-là, le bâtiment, quand on régularise, 30% des gens travaillent dans le bâtiment. C'était le cas des deux régularisations françaises de 81-82 et de 97-98. Donc c'est quand même un secteur qui structurellement fonctionne avec de l'immigration clandestine. La restauration, également tout ce qui concerne le nettoyage, ce qui concerne également l'industrie de l'habillement. Aujourd'hui, on a des quartiers entiers de Paris où il y a une sorte de délocalisation sur place. C'est-à-dire que les ateliers chinois, par exemple, qui avaient été délocalisés par les entreprises françaises pendant un temps, maintenant se réinstallent à leur propre compte dans le 9e, 10e, 11e arrondissement de Paris, en faisant travailler des compatriotes au noir dans des conditions de travail qui ressemblent à ce que Villermé à peu près définissait en 1848, avec des conditions véritablement d'esclavage moderne. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, ou tout au moins une demande de main-d'œuvre dans les secteurs où viennent s'employer les nouveaux arrivants dans la clandestinité.
En effet, et puis je crois le secteur de l'agroalimentaire qui également est effectivement très demandeur. Alors à côté, effectivement, donc cette immigration clandestine, il se trouve que les pouvoirs publics ont mis en place en 99 l'aide médicale d'État qui leur est réservée, voire destinée, avec succès puisque le nombre des bénéficiaires est passé de 75 000 personnes en 99 à 200 000 en 2002. Donc ce n'est que la partie visible d'une immigration clandestine beaucoup plus conséquente. Alors loin de moi l'idée d'émettre un avis sur ce sujet, mais comment justement expliquer ce paradoxe entre une volonté de lutter contre le travail clandestin et à la fois la mise en place d'un dispositif apte en fait à soigner toute cette population?
Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas les moyens financiers, ni la volonté politique, ni nécessairement, la possibilité, en termes de droits de l'homme, d'expulser tous les gens qui sont en situation irrégulière. En France, le taux qui a beaucoup monté ces dernières années, notamment sous la gouvernance de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur. On a un taux d'effectivité des reconduites, des expulsions, etc., qui est à peu près de 37%. C'est-à-dire qu'on est passé de 17%, 17-18% il y a 2-3 ans à 37% aujourd'hui. On applique, on reconduit, il y a des charters, il y a des vols groupés, etc. Ça se passe souvent mal d'ailleurs, mais d'une part les gens reviennent, d'autre part on a besoin de ces gens et on les garde et on le sait.
Alors vous parliez justement du taux de reconduite après que les demandeurs d'asile aient été déboutés de l'OFPRA. Effectivement, ce taux était aux alentours, je crois, de 26% en 2000, un taux d'exécution assez faible.
C'est uniquement pour les demandeurs d'asile, je parlais de toutes les catégories.
D'accord, très bien. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de la responsabilité de la France quant à ces déboutés, puisqu'on sait que comme ce taux de reconduite en fait est très faible, ça veut dire qu'on maintient dans l'illégalité un certain nombre de personnes.
C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, on est face à des nouveaux profils de demandeurs d'asile, des gens qui, et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'avait été mis en œuvre ce qu'on appelait l'asile territorial pour les Algériens, des gens qui viennent de pays qui sont dans une situation de quasi-guerre civile, mais en même temps, dont l'État n'était pas auteur de la persécution. Aujourd'hui, on admet que dans ces situations, on puisse bénéficier du statut de réfugié si l'État n'est pas auteur de la persécution. Donc il y a une évolution dans ce sens, favorable aux demandeurs d'asile. Mais en même temps, on a des tas de situations très floues de guérillas qui durent des années. Or, en application de la Convention de Genève, quand le pays est dans cette situation, on ne donne pas le statut de réfugié. Ça voudrait dire qu'on donne raison à l'une des deux parties en lice. Les gens attendent. Ils attendent que la guerre se termine et la guerre peut durer très longtemps. On a des situations de guerre civile dans toute une série de régions du monde, comme Haïti par exemple. Ça peut durer très longtemps. Donc ils attendent et ils vivent ici sans trop être inquiétés quant à leur séjour. Mais comme il faut travailler, qu'ils n'ont pas le droit de travailler puisque la France a supprimé en 91 le droit pour les demandeurs d'asile au travail, ils travaillent au noir.
Jacques Dupaquier.
On vient de voir deux questions successives. Il y a le problème du travail. Il est bien évident que l'immense majorité des immigrés en provenance du tiers-monde vient essentiellement pour trouver des secours. Malheureusement, ils ont une qualification qui est extrêmement faible. Nous sommes dans une civilisation très technicienne et la part des étrangers dans le bâtiment et les travaux publics et dans d'autres domaines a diminué. Parce que si vous ne devez pas vous contenter de prendre la population active, c'est-à-dire celle qui se dit à la recherche d'un emploi, mais vous prenez les gens qui ont un travail effectif, dans le bâtiment et les travaux publics, la part des Africains, y compris le Maghreb, et des Turcs, est aujourd'hui de l'ordre de 10%. Les taux de chômage de ces populations sont effrayants. Pour les Maghrébins, les Africains noirs, les Turcs, le taux de chômage des hommes est voisin de 30% et le taux de chômage des femmes est voisin de 40%. Chez les femmes turques âgées, on atteint même la moitié pratiquement. Donc en réalité, ils n'ont pas la qualification dont on aurait besoin. Je crois que une des nécessités de l'intégration, parce qu'il est bien évident que ces gens-là vont rester, qu'il va falloir les intégrer, c'est de les requalifier. Il y a toute une formation qui est indispensable. Nous assistons aujourd'hui à une sorte de course de vitesse entre une immigration qui augmente tous les ans de 10 ou 15%, n'est-ce pas, et l'intégration qui ne se mesure pas aussi facilement que l'immigration, mais qui apparemment, d'après ce qu'on dit, est en grande partie en panne. L'intégration se fait mal, les facteurs d'intégration, c'est l'école, mais comme vous le savez, l'école est en crise, c'est le travail, et là vous avez raison, les étrangers ont beaucoup de mal à trouver du travail. Puis alors l'autre point, c'est évidemment l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, on ne la mesure pas par définition, puisque elle est clandestine. Les évaluations vont pour la France, c'est quelque chose comme 300 000. Mais c'est peut-être davantage, après tout. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que les clandestins, eux, travaillent. Il ne faut pas s'imaginer que les clandestins représentent une menace pour l'ordre public. Et les clandestins cherchent à ne pas se faire remarquer. Il y a moins de délinquance chez les étrangers sans papier qu'il n'y en a chez les étrangers tout court.
En tout cas, alors, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur le travail clandestin, il se trouve que les ministres de l'Intérieur successifs ont quand même témoigné de leur intérêt pour lutter contre ce problème. Le dernier en date est Dominique de Villepin, hein, puisque l'actuel ministre de l'Intérieur a présenté son plan de lutte contre l'immigration illégale la semaine dernière dans les colonnes du Figaro. Il prévoit cette année 15 000 reconduites à la frontière, puis 20 000 en 2005. Donc, en dépit de la bonne volonté affichée, le fait que la lutte contre l'immigration clandestine revienne régulièrement sur le devant de la scène, n'est-ce pas justement le signe que la France a le plus grand mal justement à endiguer ce phénomène? Catherine Vitol de Vanden.
Oui, c'est vrai pour tous les pays européens et notamment ceux qui ont des frontières extérieures en Europe, comme la France entre autres. Ce phénomène de l'immigration clandestine, il a toujours existé, c'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire que quand je citais les chiffres de l'Office national d'immigration en 68, 82% des gens en 1968 entraient illégalement, chose qu'on a totalement oubliée. Les Portugais, qui sont la première nationalité en France, ce qu'on a tendance à oublier en termes de nombre, sont presque tous entrés de façon illégale en traversant la frontière à pied. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, l'immigration clandestine. Ce qu'il y a, c'est que dans le passé, on les régularisait plus facilement. On n'avait pas des stocks comme ça de gens qui se constituaient de sans-papiers, mais ça a toujours existé. Moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les formes de mobilisation des migrants et les collectifs de sans-papiers, les gens qui demandent leur régularisation. C'est un phénomène qui existe depuis le milieu des années 60, en fait.
En tout cas, phénomène dont les Français ont pris conscience en 96 avec les sans-papiers de Saint-Bernard qu'il a fallu régulariser, en tout cas. Voilà, et je voulais également, je m'interrogeais sur le fait que l'abolition des frontières intérieures dans l'espace de Schengen, est-ce que cette abolition favorise l'arrivée de nouveaux migrants ou la facilite ?
Catherine Vitol de Vanden. À l'intérieur, disons que le système européen a été construit sur toute une série de scénarios qui ne se sont pas produits. C'est-à-dire que dans le milieu des années 80, on pensait qu'en donnant la liberté de circulation, d'installation et de travail aux Européens, c'était l'esprit de Schengen, on aurait beaucoup plus d'Européens qui circuleraient et travailleraient en Europe. Or, le résultat montre que pour toute une série de raisons sur lesquelles on peut se pencher, ils sont beaucoup moins mobiles qu'on ne l'avait pensé. Ils sont d'autant moins mobiles qu'ils sont peu qualifiés. Et ce que l'on constate, c'est qu'au contraire, la migration, contrairement à ce qui était prévu sur les frontières extérieures de l'Europe, s'est poursuivie. Alors, c'est poursuivi avec les moyens du bord. Comme il n'y avait plus d'entrée de travailleurs, ben, ça a été la voie de l'asile, ça a été le regroupement familial, ça a été la clandestinité, ou alors, aux marges, les étudiants, les experts, etc., les commerçants. Donc, on a ce phénomène-là aujourd'hui, et c'est un phénomène qui se poursuit. On continue à avoir assez peu de mobilité intérieure, sauf qu'il y a les migrants de l'Est, quand même, qui aujourd'hui ont beaucoup circulé depuis la chute du mur de Berlin, mais qui n'ont pas encore l'autorisation de travailler. Et puis, pour le reste, eh bien, la migration, elle se fait surtout de part et d'autre des frontières extérieures de l'Europe.
Très bien, nous allons marquer à nouveau une courte pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous. Et écoutez, Jessica Baudet.
Dernière partie de notre émission éclairage consacrée à l'immigration en France. Pour revenir sur ce que vous disiez, Catherine Vitol de Vanden. Certes, effectivement, dans les frontières intérieures de l'espace de Schengen, les ressortissants originaires, voilà, des États membres ne sont pas plus venus en masse en effet en France. En revanche, à l'extérieur, il semble que les choses ne soient pas aussi évidentes. Et quelle est la place et l'importance des circuits économiques de type mafieux ? Est-ce que ça n'est pas parce que nous abritons, nous, en France, comme dans chez nos voisins européens, des circuits économiques de ce type, que ces clandestins continuent d'arriver chez nous ?
Il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'une part... je pense que la fermeture des frontières crée elle-même des mafias parce que il y a d'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, une économie du passage qui s'est créée, ça c'est un phénomène récent, et puis comme le passage coûte très cher, il faut que les gens puissent financer leur passage. Donc comment est-ce qu'ils financent leur passage ? En travaillant clandestinement, très souvent d'ailleurs dans des entreprises qui sont plus ou moins créées par le monde des passeurs. C'est-à-dire que souvent, les passeurs sont en mèche avec des employeurs qui sont souvent des compatriotes et qui emploient les gens au noir et qui mettent des années à rembourser le prix de leur voyage, de leur passage, des faux papiers et de la fourniture du travail. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui se forme de cette façon. Comme un peu du temps de la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30.
En tout cas, les pays... Oui, oui. Jacques Dupaquier.
Oui, mais une bonne partie de ces migrants clandestins qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont tout vendu. C'est les haragas marocains, des gens qui ont brûlé leur passé et n'ayant plus aucun espoir de retour, ils ont tout liquidé. Et effectivement, ça coûte très cher de venir en Europe. Et la mafia, les mafias se sont installées. Et à mon avis, c'est ça d'ailleurs qui limite l'immigration clandestine, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de se payer les frais de passage. Autrement, le nombre de demandeurs se compterait en dizaines de millions. Je suis sûr qu'en Afrique, il y a des dizaines de millions d'Africains qui n'ont qu'une idée, n'est-ce pas, c'est de pouvoir s'en aller, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Puis il y a le barrage plus ou moins efficace de la Méditerranée. Non, ce sont vraiment de pauvres gens. Je crois qu'on a une responsabilité très grande dans cette situation, parce qu'on n'a pas réussi le co-développement, on n'a pas fait les investissements qu'il aurait fallu en Afrique, l'argent a été dilapidé, et il est clair que l'Afrique est en train de faire naufrage. Et alors, les gens quittent le navire.
En tout cas, donc pour revenir à l'immigration clandestine, il se trouve que majoritairement, elle est plutôt sud-asiatique. Ça, c'est une première chose, plutôt que marocaine. En tout cas, c'est ce que les statistiques prouvent. Et d'autre part, vous me permettez une transition, puisqu'effectivement, les pays européens se sont, enfin, les ministres des Affaires étrangères des pays européens se sont rencontrés au début du mois à Oran pour justement essayer de mettre en place une série de mesures afin de juguler l'immigration clandestine. Et il a été justement question d'aide au développement. Est-ce que vous pensez que cela suffise aujourd'hui à stopper l'immigration clandestine venant de ces pays ? Monsieur Jacques Dupaquier.
On n'aura pas des résultats en 6 mois. Hein. Le code développement, c'est une affaire de 10 ans ou 20 ans. Mais si on abandonne, mais qu'est-ce qui va se passer ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? L'Afrique va avoir gagné d'ici à 2025, va avoir gagné 300 millions d'hommes. Même si l'Europe en admettait 30 ou 40 millions, pour l'Europe ce serait considérable, mais pour l'Afrique, qu'est-ce que ça représente ? C'est la masse de ces gens qui vont partir. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses très au sérieux, il ne faut pas se masquer, que nous nous trouvons devant un phénomène complètement, totalement nouveau, une nouvelle vague migratoire. On n'a pas les moyens d'y faire face. Elle se trouve freinée d'abord effectivement par les politiques, les États ferment leurs frontières, l'Europe ferme ses frontières, c'est vrai, et ce n'est pas totalement efficace, là-dessus vous avez raison. Mais l'autre côté, c'est le coût financier et humain de la migration d'Afrique vers l'Europe. Moi, je crois que pour les autres pays, ça va s'arranger, mais pour l'Afrique, pour l'Afrique noire, je suis très pessimiste.
En tout cas, l'aide au développement est remise au goût du jour et manifestement, elle représente une proportion très faible des aides apportées par les pays européens à l'Afrique, quand on sait les intérêts que nos pays peuvent avoir dans ces pays.
Très faible aussi. L'Afrique compte plus dans l'économie mondiale, je vous dis, c'est 1,5%, etc., de l'économie mondiale. Dans les échanges, c'est la même chose. C'est moins de 2, l'Afrique compte pour moins de 2% des échanges. Donc il ne faut pas s'imaginer que l'Afrique est dans cette situation parce qu'elle est exploitée. Elle est dans cette situation parce qu'elle est complètement incapable d'assurer son propre développement.
Mais que faudrait-il?
Pour des raisons politiques, en grande partie. On a continué à subventionner des régimes corrompus, mafieux. L'argent qui aurait dû être accordé au développement a été honteusement gaspillé. Non, moi, je trouve ça terrible. J'ai des liens avec l'Afrique, et quand je vois ce qui se passe, c'est abominable.
Mais alors, que faut-il faire pour ne pas laisser ce continent entier à la dérive?
Il y a formation. Moi, je crois que c'est ça. Il y a, dans l'Afrique noire, il y a peu d'esprit d'entreprise. Et il faut dire qu'il faudrait vraiment avoir un gros esprit d'entreprise pour entreprendre quelque chose. Mais enfin, c'est pas désespéré. On voit les femmes sénégalaises, par exemple, qui sont capables de monter des petits commerces, de monter un peu d'artisanat. Il faudrait une sorte de plan Marshall pour l'Afrique, mais ça demande effectivement un retournement de mentalité complète, aussi bien en Europe qu'en Afrique.
En tout cas, si aujourd'hui la crise économique et le chômage qui en résultent ne nécessitent pas forcément le recours massif à l'immigration, bien que des secteurs entiers de l'économie française en aient besoin, la France devra à partir de 2010 combler le déficit de sa population active. Pensez-vous qu'une des solutions réside dans le recours à l'immigration? Et si oui, est-il nécessaire d'y recourir en fait avec certains critères?
Je pense Catherine Vitol de Vanden. On est déjà entrer dans cette phase de réouverture de l'immigration sans le dire. Dans les pays européens, on commence à changer de discours. On a abandonné, depuis le sommet de Tampere de 99, l'immigration zéro. Un certain nombre de pays européens ont essayé d'accueillir des élites et des qualifiés. Par exemple, l'Allemagne, dans sa nouvelle loi sur l'immigration, abandonne complètement la suspension des flux de main-d'œuvre salariés. En France, on a essayé d'attirer quelques dizaines de milliers d'informaticiens. On a donné aux étudiants la possibilité d'avoir une carte de travail à l'issue de leurs études, mmh, s'ils trouvent un travail stable, ce qui montre qu'on veut essayer de s'attirer des élites et des qualifiés. Dans d'autres pays européens, pour l'instant aussi, on essaye d'avoir une population qualifiée un peu sélective, je dirais presque à la canadienne, même si ça n'est pas dit en tant que tel. Donc on s'oriente vers une sorte de migration sélective d'un côté. Ça, c'est pour la migration qualifiée dont on a besoin. Et également, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, on recourt à l'immigration clandestine. Donc, la réalité, c'est qu'on est dans ce profil où les économies recourent à l'immigration sans le dire. En fait, on affiche le contrôle des frontières, on affiche une politique extrêmement dissuasive, sécuritaire, qui fonctionne plus ou moins bien. Et en réalité, on fonctionne économiquement en recourant la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée étrangère dans tous les pays européens.
Jacques Dupaquier.
En principe, on ne pratique pas en Europe, et surtout en France, la politique des quotas, comme on le fait aux États-Unis, c'est-à-dire on n'attribue pas, par exemple, au Gabon tant d'immigrants par an, au Sénégal tant d'immigrants. Mais la plupart des pays européens ne le pratiquent qu'indirectement, parce qu'ils donnent des quotas en fonction de la qualification. Mais ça porte un nom, ça s'appelle le drainage des cerveaux, et ça consiste finalement à empêcher, en dernière analyse, empêcher l'Afrique de se développer. Les agents du développement, on les attire. Les étudiants, c'est très bien de faire venir des étudiants, on en a tous les ans 60 ou 61 000, n'est-ce pas? Mais la plupart ne repartent pas, parce qu'il vaut mieux être médecin en Seine-Saint-Denis que d'être médecin en Gambie ou au Gabon. C'est ça qui se passe. Donc il faut faire extrêmement attention, et moi je ne crois pas que ce soit la solution. Il faudrait arriver probablement à former des étudiants sur place, à développer les qualifications sur place. Mais enfin, je ne vais pas vous raconter des histoires, mais j'en connais beaucoup, enfin, de cet ordre-là. Et alors, en ce qui concerne la population, il ne faut pas rire. Hein. Le défi, l'Europe vieillit, c'est clair. Mais si on voulait maintenir le rapport entre les jeunes, les actifs et les adultes, l'Europe devrait importé à terme plusieurs centaines de millions d'immigrants. Et l'Afrique et la Chine, pour maintenir son rapport, sa pyramide des âges, devrait importer 1 milliard d'immigrants. On se demande où ils iraient les chercher. Ça, c'est une sorte de farce. La population vieillit. Nous vivons la dernière phase de la transition démographique. Notre population va vieillir. La population de certains pays, comme les pays d'Europe de l'Est ou l'Italie, cette population va diminuer. Le vrai problème, c'est celui de la population active. Alors, en ce qui concerne la population active, la main-d'œuvre est tellement chère qu'on a fait des progrès de productivité tout à fait incroyables. Nous n'aurons pas de déficit de population active globalement jusqu'en 2020. Par contre, on l'aura dans un certain nombre de secteurs déterminés. Et moi, je crois qu'effectivement, peut-être on peut requalifier un certain nombre d'immigrants dans des secteurs, l'hôtellerie, par exemple, la restauration, les soins personnels aux personnes, les hôpitaux, etc. Mais tout ça va être relativement ponctuel.
En tout cas, l'attitude de nos voisins témoigne, selon moi, d'un changement quant au recours à la main-d'œuvre étrangère. Depuis des années, les ramasseurs de fraises de la région andalouse sont en majorité d'origine marocaine. Et alors, surprise, cette année, le gouvernement espagnol a préféré faire appel à la main-d'œuvre roumaine et polonaise. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'élargissement de l'Europe vers l'Est ne laisse-t-il pas entrevoir le recours à une main-d'œuvre plus européenne qu'africaine à terme?
C'est-à-dire que les ressortissants d'Europe de l'Est bénéficient déjà depuis 1991 pour les uns, depuis 2001 pour les derniers, les Roumains, de la liberté de circulation. Donc ils peuvent circuler, ils n'ont pas encore le droit de travailler, mais ils peuvent circuler. Et ils vont bénéficier peu à peu de la liberté de travail et d'installation. Donc effectivement, on aura là une population qui pourra exercer ses droits de travailleurs en Europe. En même temps, les salaires du travail clandestin, au fur et à mesure qu'ils vont entrer dans les droits des Européens, seront peut-être moins attractifs pour eux s'il s'agit d'un travail très très mal payé. Donc on peut imaginer qu'on aura encore affaire à des non-européens pour faire ces travaux très mal payés. En revanche, pour la population qualifiée, il peut y avoir une concurrence entre les Européens de l'Est, souvent formés et qualifiés, parfois très qualifiés, et les gens du Sud qui ne sont pas tous des bras. Il y a des tas de pays du Sud qui forment beaucoup plus de cerveaux qu'ils ne peuvent en absorber sur le marché du travail. C'est pour ça que je suis plus nuancée peut-être que Jacques Dupaquier sur le pillage des cerveaux, parce qu'il y a des tas de pays où, d'une part, on encourage la migration de façon explicite. Les transferts de fonds représentent une manne très très importante pour les pays de départ. Et d'autre part, il y a des pays qui ne peuvent pas de toute façon absorber tous les qualifiés et surtout les très qualifiés qu'ils ont formés et qu'ils produisent, si j'ose dire, pour l'exportation de façon explicite. Je pense qu'on peut avoir effectivement une concurrence Est-Sud pour la population qualifiée et très qualifiée. Mais on pourra le mesurer seulement au bout de plusieurs années de fonctionnement du nouveau marché du travail de l'Europe à 25.
C'est vrai.
Au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique, n'est-ce pas, les démographes ont imaginé qu'il allait y avoir une véritable déferlante de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Mais il y a une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas produit, c'est que ces pays-là sont en pleine implosion démographique. La Russie va perdre encore quelque chose comme 7 millions d'habitants d'ici 2025. Il n'y a pas un très gros excédent de main-d'œuvre, tandis que l'Afrique a un excédent formidable de main-d'œuvre. Non, à mon avis, la seule solution, mais elle est à long terme, c'est le co-développement. C'est pas ça qui va régler les problèmes pour 2010 ni même pour 2020, mais à long terme, c'est la seule chose.
Eh bien, très merci. C'est sur ces quelques mots que s'achève notre émission éclairage consacrée aujourd'hui à l'immigration en France. Immigration dont la complexité appelle à la nuance. Réaliser l'unité dans la diversité constitue donc un enjeu majeur pour notre pays, mais nul doute qu'il y parviendra avec le temps. Merci à Catherine Witold-Vanden d'être venue et à Jacques Dupaquier également d'avoir partagé ce débat avec nous.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.